marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Voici le vol nuptial du Martin Pêcheur qui papillonne au-dessus de l'eau comme un bijou bleu et vert.
Toute cette semaine, Valérie Chansigaud ou l'immense toile de la nature. Épisode numéro 3. La nature malade de l'homme.
Dans les bruits habituels de la terre, un cri surgit. Il provoque le silence des choses et des êtres. Après des alternatives de silence, ce cri, le cri de l'homme, prend sa place parmi les autres bruits habituels de la terre.
On sait depuis le 19e siècle au moins, et sa déflagration industrielle, l'effet dévastateur de l'homme sur la nature. Mais en 1936, cette cantate que Darius Milhaud compose pour l'inauguration du musée de l'homme se veut encore prudente. Il y est simplement dit que le cri de l'homme a pris sa place parmi les autres bruits habituels de la terre, sans que nul autre jugement ou observation soit formulé. La guerre que l'Axe provoque ensuite constituera la pire affirmation de la volonté de domination de l'homme sur l'homme connue jusqu'alors, la domination de l'homme sur la nature, y trouvera de nouvelles justifications. En réalité, la juste place de l'homme dans la nature demeure introuvable. Il serait enfin raisonnable qu'il la vive comme une coévolution. Mais déclenchant toutes sortes de mécanismes d'adaptation chez les autres organismes vivants, l'homme se prête mal à sa propre adaptation. Excellent technicien, peut-il devenir une espèce ingénieure, c'est-à-dire une espèce qui sache augmenter dans son écosystème la diversité des autres espèces. Le plus désespérant est qu'au moment bien tardif où il consent enfin des efforts importants, les tendances lourdes résultantes des vitesses acquises jusque-là précipitent les destructions d'espèces.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec de nouveau donc notre initiatrice à l'histoire environnementale, Valérie Chansigaud, bonjour.
Bonjour.
Je ne vais pas rappeler les très nombreux livres que vous avez publiés chez Delachaux et Niestlé, mais pas seulement. Enfin, il y en a un qui s'intitule « La nature à l'épreuve de l'homme », pas exactement le titre que vous avez choisi pour cet épisode.
Non. Initialement, j'avais pensé à « La nature malade de l'homme », avec un point d'interrogation, parce que c'est une question, ce n'est pas une affirmation, c'est une piste de travail.
Je l'ai bien dit avec un point d'interrogation.
Oui, impeccable. Et ce titre n'a pas été, au final, retenu de crainte d'effaroucher le lecteur.
Alors, expliquez-nous, on peut faire l'observation de la nature en considérant la nature vivante comme un laboratoire. C'est votre formation d'origine. On peut faire de l'observation expérimentale aussi.
Oui, bien sûr. L'observation a de multiples facettes, en quelque sorte. L'observation peut être extrêmement artificielle quand elle est conduite dans un environnement dont on contrôle les principaux éléments, ou elle peut se faire, au contraire, dans la nature. L'une n'est pas supérieure à l'autre. Les deux méthodes se complètent.
Histoire environnementale, ça veut dire que le passé aussi est un laboratoire?
Oui, on retrouve cette idée dans la formule histoire naturelle. L'histoire naturelle est aussi une histoire. Cette dimension historique, temporelle, est absolument essentielle.
Alors, il y a un grand livre de vous sur toutes ces questions, avec une mise en perspective de l'impact de l'homme sur l'environnement pendant l'Antiquité, sur le coût de l'expansion européenne, sur le dépassement des frontières naturelles. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être au moment où l'idée darwinienne va peu à peu d'ailleurs se répandre.
Oui, Darwin vient remettre en question la place de l'être humain dans la nature, même si on pourrait trouver des prédécesseurs qui ont réfléchi à cette question-là en des termes d'ailleurs pas forcément très éloignés de son apport. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la nature est vraiment vue comme un univers qui a été modifié profondément par l'action humaine, et ce, depuis la préhistoire.
Mais au XIXe siècle, ça a déjà commencé au XVIIIe, il y a ce que vous appelez la déflagration industrielle. Le mot déflagration, vous le choisissez plutôt que celui de révolution industrielle.
Oui, parce que ce qui se passe, c'est vraiment une transformation radicale de la planète entière. C'est pas simplement l'émergence d'industries nouvelles, de productions nouvelles. Tout change, la rapidité des échanges, l'impact que peut avoir l'agriculture avec des modèles beaucoup plus tournés vers des monocultures intensives, d'abord aux États-Unis avant de s'exporter beaucoup plus tard en Europe. C'est quelque chose qui touche en fait tous les aspects de la vie humaine, y compris dans les guerres, avec des guerres qui vont devenir elles aussi industrielles.
Et qui sont des guerres contre l'environnement.
Qui sont aussi des guerres contre l'environnement, des guerres contre les hommes et aussi contre la nature.
Alors nous, on va travailler sur l'après-guerre, si vous le voulez bien. Et l'après-guerre continue la guerre. Voici Madame Louise Weiss. Madame Louise Weiss, c'est une dame qui est d'origine pacifiste. Elle était très proche d'Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères. Et après avoir été une égérie de la Troisième République, avant de devenir sous la Cinquième la présidente du Parlement européen, elle prenait des vacances bien méritées du côté d'Andrézy et de Conflans-Sainte-Honorine. Mais voilà qu'elle était gênée par des petites bestioles, comme c'est une expression que vous utilisez souvent. Et heureusement, depuis la guerre, il y a le DDT.
À Conflans-Sainte-Honorine, branle-bas de combat. Madame Louise Weiss, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de détruire les moustiques de ces charmantes localités du confin de l'Oise et de la Seine. Moustiques qui gâtent le séjour ou risqueraient de gâter le séjour des estivants et qui veulent profiter des charmes des berges de la Seine.
Oui, monsieur Berrurier.
Nous avons en bordure de la forêt, aux confins de Conflans, une plage. Une plage qui est merveilleuse, avec terrain de camping, et depuis un an, on l'a aménagée d'une façon presque impeccable.
Somptueuse.
Oui, très bien.
Nous nous trouvons maintenant dans une cave qui est creusée, dirais-je, à travers dans la falaise de Conflans-Sainte-Honorine qui borde les rives de la Seine. Nous allumons nos lampes électriques et au plafond, évidemment, des milliers et des milliers de moustiques sont là, collés, pris dans les toiles d'araignées.
Le mur est tapissé de moustiques.
Tapissé de moustiques, c'est une chose extraordinaire de voir tout cela.
Il faut les détruire. Et moi, je ne m'étais pas aperçu de la présence de ces moustiques. Et ce sont les squatters qui habitaient ces caves avant mon arrivée qui, pour me rendre service, en partant, m'ont signalé l'origine du fléau dont ils avaient tellement souffert.
Tenez, vous les voyez là ? Tenez, oh là là !
Vous ignoriez qu'il y avait des moustiques dans votre cave. Eh bien, je vous les montre avec le rayon électrique qui ne les dérange pas. Mais tout à l'heure, le DDT va les déranger.
Il faut les détruire, ça prolifère. Ça se multiplie et puis ces vecteurs de maladie.
C'est aussi une raison de confort. On l'entend dans cet extrait tout à fait lumineux, en fait.
J'allais même dire somptueux, pour reprendre le vocabulaire de
Louise Weiss. Elle avoue qu'elle n'avait jamais remarqué les moustiques avant qu'on attire l'attention sur leur présence dans la cave. Mais ça montre bien quelque chose qui est à l'œuvre depuis très très longtemps, qui est pas simplement que la guerre contre la nature ou là les moustiques, c'est l'idée que l'être humain ne s'est pas tant adapté à l'environnement qu'il a en fait adapté l'environnement à ses besoins. C'est-à-dire que le but, c'est de profiter de l'été sans être gêné par ces bêtes. Peu importe si on utilise des produits dangereux comme le DDT, on pourra y revenir, mais le but, c'est vraiment de vivre comme on le souhaite et la nature doit se plier à ce souhait. Il n'y a pas cette notion, en fait, de s'adapter à quelque chose qui existe, mais bien d'adapter la nature.
Tandis que les insectes s'adaptent au DDT.
de façon remarquablement efficace. Il faut imaginer aujourd'hui, quand on met au point un nouveau insecticide, l'adaptation apparaît chez les insectes qui sont la cible de ces produits, parfois au bout de seulement une, deux ou trois générations. C'est-à-dire en quelques mois, au pire en un an et demi, l'adaptation va apparaître. Cette adaptation, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une résistance aux insecticides. Les insecticides vont devenir peu à peu insensibles aux produits utilisés, donc il faudra augmenter les doses ou changer de produit, souvent pour des produits encore plus agressifs que les précédents. Il y a une sorte de guerre qui se livre, pas simplement que contre les insectes, mais les insectes aussi ont une arme secrète qui est cette capacité d'adaptation.
Mais pour rester dans le cas du DDT, le DDT a des incidences, dites-vous, jusque sur les couvées des oiseaux.
Le DDT commence à être commercialisé de façon totalement massive en 1945. C'est célébré comme étant un produit miracle de cette après-guerre qui voit l'avenir avec confiance. Tout de suite, les naturalistes et les protecteurs de la nature aux États-Unis s'inquiètent de ce produit. Puisque le DDT a la vertu de tuer tous les invertébrés, tous les insectes, les naturalistes savent bien que tuer tous les insectes est une mauvaise idée. Et on va tout de suite essayer de chercher, de comprendre l'impact qu'il peut avoir sur la nature. Et le meilleur exemple, ça va être l'échec, peu à peu, qu'on va voir, de reproduction de certains oiseaux qui sont situés en bout de chaîne alimentaire, comme des rapaces, des oiseaux marins comme les pélicans, qui ne vont plus réussir à se reproduire.
Les oiseaux qui nichaient sur les haies. Parce que, il faut que vous nous expliquiez, avec un exemple qu'on va prendre cette fois en Bretagne. Madame Louise Weil se coule des étés heureux. Nous sommes un peu plus tard, au début des années 1970, dans le Finistère et le Morbihan. Le remembrement y bat son plein, qui s'inscrit peut-être dans un projet global qui est la conséquence de l'industrialisation dont témoigne le DDT.
Voilà les bâtiments d'habitation. Voilà le hangar de la ferme, avant le remembrement. Les bêtes se trouvaient dans ces parcelles-là, ici, partout. Elles étaient protégées contre les vents par les talus, qui avaient avec leur végétation, les arbres et tout, environ 7-8 mètres de haut. C'était un abri pour les bêtes, aussi bien pour les cultures. Le remembrement est venu. Alors, résultat, eh bien, en hiver, les bêtes ne restent même pas dehors, parce que elles cherchent à venir se mettre à l'abri derrière un talus qui reste, ou bien qu'elles viennent à l'étable.
Et pour les oiseaux également, il n'y en aura plus. Et il y aura beaucoup d'insectes ensuite dans les cultures. Il faudra utiliser les insecticides, ce qui entraînera la pollution automatiquement.
Alors ce talus-là, vous avez réussi à le conserver ?
Oui, et puis celui-là ne sera pas détruit. Et les zones non plus d'ailleurs, ces talus sont très vieux, ils sont faits par nos ancêtres. Et puis ils ont d'ailleurs sûrement plusieurs centaines d'années. Mais moi, à mon avis, je vais tout garder, les talus, tout. Oui, je vais pouvoir protéger la nature, l'environnement, tout ça. Beaucoup de destructions chez moi, je vais garder tant que je pourrai. Mes enfants les feront autant. Et même dans la région, beaucoup de gens même sont tirés vraiment pour moi à cause de ça. Ils veulent garder leurs talus, tout ça. C'est un passé qui a préservé, à mon avis.
Reportage de la radio-télévision française 1972. La jeune femme qu'on entendait avait peut-être raison de prendre une allure de prudence, petit pas.
Oui, ce qu'on voit rarement dans le comportement humain, qui a tendance à marcher très vite. Il y a un magnifique observateur de cette évolution de l'agriculture dès la fin du 19e aux États-Unis, c'est Élisée Reclus qui va écrire de pages absolument somptueuses sur la question agricole, sur le monde paysan. Il écrit dans un texte que une fois que les animaux sont blessés, on les abat, et lorsqu'un paysan est lui aussi fatigué, on le jette, certes, on le tue pas, mais c'est presque la même chose. Ce qu'il observe aux États-Unis, c'est une agriculture qu'il qualifie de spéculative, c'est un mot intéressant à la place du terme industriel, avec de vastes, très très vastes exploitations, avec une seule culture qui se répète saison après saison, et émergent des problèmes très spécifiques dans ce type d'agriculture, notamment la prolifération de certains insectes. Et dès la fin du 19e, se met en place des stratégies d'insecticides chimiques contre l'avis des scientifiques. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment le monde agricole qui les réclame. Et on va utiliser en abondance de l'arsenic. Et ce modèle, en fait, d'un certain type d'agriculture extrêmement intensive, extrêmement spéculative, pour reprendre le mot de Reclus, exige, ne peut pas s'imaginer ou s'inventer sans utilisation d'insecticides. Et le remembrement qui est décrit dans cet extrait correspond à cette phase où on a besoin de parcelles de plus en plus grandes pour mettre en place cette mécanisation, cet apport chimique sous toutes ses formes et qui conduit à la disparition des haies, qui sont également un paysage artificiel. Ça, c'est une autre question. Mais néanmoins, on transforme ce paysage qui est relativement ancestral en un paysage nouveau et dans lequel, effectivement, la faune a peu de place.
Ainsi, Valérie Chansigaud, en 1936, dans la cantate pour l'inauguration du musée de l'homme de Darius Milhaud, l'homme avait tort d'admirer tranquillement ses conquêtes.
L'homme admire ses conquêtes.
Notre est hostile.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Valérie Chansigaud, notre troisième épisode de la série de Noël, La nature malade de l'homme, nous mettons bien un point d'interrogation. Les ennemis qu'il faut éliminer systématiquement, je parle de la pensée de l'homme avant même 1936, prenons le cas des États-Unis. Les chiens de prairie, c'était des ennemis qu'il fallait éliminer systématiquement, les bisons. C'était des ennemis qu'il fallait éliminer systématiquement.
Oui, mais pas pour une raison, je dirais, de détestation de la nature, mais une volonté de manipuler la nature. Par exemple, dans le cas du bison, c'est flagrant. On a éliminé le bison au profit de quoi ? Du troupeau de bœuf. C'est pas, en fait, la volonté d'éliminer la nature plutôt que de l'utiliser à son profit. Et profit au sens vraiment le plus net du terme. Un profit qui est rarement, d'ailleurs, réparti sur l'ensemble de la population. C'est-à-dire que tout cet usage de la nature qui aboutit à l'érosion de la biodiversité, à la raréfaction des populations, voire la disparition des espèces, se fait rarement au bénéfice de l'humanité avec un grand H. C'est toujours une minorité qui en tire profit, mais rarement le plus grand nombre.
Alors on va laisser tomber les prairies un instant et se tourner vers le monde marin. Les chiffres des disparitions concernant les oiseaux de mer sont très impressionnants. Vous êtes une grande passionnée d'ornithologie.
Pas simplement que des oiseaux. Ce qu'il faut observer, c'est que c'est bien l'ensemble du monde vivant qui diminue. Je donne souvent un exemple. Il y a des années de cela, quand on se déplaçait en voiture en été, il fallait s'arrêter souvent pour nettoyer le pare-brise parce qu'il était maculé d'insectes. Aujourd'hui,
je ne savais pas que vous circuliez en voiture.
Ça m'arrive. Mais c'est quelque chose qui n'arrive plus. En fait. Or, c'est, encore une fois, cette érosion, chaque fois qu'on prend, ou presque chaque fois qu'on prend un exemple mesurable sur le temps, on se rend compte qu'il y a une sorte de fonte accélérée de cette diversité du vivant.
Mais restons au monde marin, et ne parlons plus des oiseaux. Or, vous avez tendance à penser que, nous avons tendance à penser, pas vous, que les animaux du monde marin, ils doivent moins souffrir que les autres, non ?
Alors ça, c'est tout à fait fascinant. Quand on regarde les publications vétérinaires consacrées aux poissons, on se rend compte pendant que la science vétérinaire dédiée aux poissons a mis très très longtemps à émerger, tout simplement pour une raison bien simple, c'est quand un poisson était malade, on le jetait. Il n'y avait pas d'idée de le soigner pour le guérir. Et peu à peu, c'est apparu, d'ailleurs sous l'action de... je dirais de l'émergence des élevages industriels de poissons. Et peu à peu, on a aussi découvert qu'on pouvait les soigner, qu'il fallait les soigner, qu'ils étaient malades et aussi qu'ils pouvaient souffrir. Et il y a de plus en plus de travaux qui montrent que les poissons, mais pas seulement que les poissons, également par exemple les crustacés, ressentent non seulement de la souffrance, mais mémorisent une situation dans laquelle ils ont souffert et manifestent une sorte d'angoisse à l'idée de souffrir s'ils se retrouvent dans cette situation.
C'est une des particularités de vos travaux d'historienne environnementaliste, c'est de faire leur part aux représentations culturelles. On va prendre un exemple, issu du Monde du silence. C'est un film important dans l'émergence du documentaire animalier, Louis Malle et le commandant Cousteau. Il y a une représentation culturelle, vous allez l'entendre au début, quand même favorable du petit cachalot là, qui va passer sous l'étrave du bateau. Quant au requin qui va surgir, la représentation en est beaucoup plus négative.
Un bébé cachalot, qui n'a que 6 mètres de long, imprudent comme tous les gosses. Il se retourne en jouant le long du bord, ça y est, il passe en plein sous la coque. La pauvre bête a été lacérée par les pales d'hélice. Les entailles sont profondes. Nous sommes consternés. Mais nous ne sommes pas les seuls témoins du drame. Le sang attire un requin, puis deux, puis trois. Des petits et des gros, des bleus et des gris. Les marins du monde détestent les requins. Les plongeurs, eux, sont déchaînés. Rien ne peut retenir une haine ancestrale. Chacun cherche une arme, n'importe quoi, pour cogner, crocher, hisser. Après ces heures épuisantes, nous reprenons la route.
Le Monde du silence, 1956, la haine ancestrale, on parlait de représentation culturelle, du marin pour le requin.
Ce qui est très curieux quand on s'intéresse à cette question-là, c'est on a toujours observé des préjugés culturels. C'est-à-dire il y a des espèces qui sont valorisées, il y a des espèces qui sont jugées belles, il y a des espèces qui sont jugées absolument dégoûtantes, d'autres effrayantes. Et beaucoup d'espèces, en fait, sont même pas jugées parce que on ne les regarde même pas. On n'y fait même pas attention. Et c'est fascinant parce qu'on observe cela partout et tout le temps. Même si on remontait à la préhistoire et qu'on regarde la diversité représentée sur les grottes des peintures qu'on peut retrouver à Lascaux et dans bien d'autres lieux, on retrouve toujours, partout, grosso modo, les mêmes animaux. Les grands mammifères, parfois des oiseaux, mais ils sont pas nombreux, et que ça soit en Europe, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique du Sud, c'est toujours les mêmes animaux qui sont représentés. C'est-à-dire, hier comme aujourd'hui, l'être humain semble être absolument constant dans son goût pour une partie de la nature qu'il va juger suffisamment honorable et belle pour pouvoir la figurer, mais pas toute la nature. Il y a toujours des perdants à cette question. Et le requin fait partie de ces animaux détestés pour des raisons, paraît-il, ancestrales, qui sont en fait juste une forme de préjugé qui se transmet effectivement au fil du temps.
Donc quand le taux de popularité est faible, certaines espèces peuvent disparaître dans le monde du silence.
Oui, parce qu'il n'y aura pas d'observateurs, c'est une sorte de crime écologique parfait, sans victime, puisqu'il n'y a pas personne pour les voir, sans même de nom à donner. Il faut savoir qu'une grande partie du monde vivant n'a même pas été décrit une seule fois par aucun scientifique. C'est absolument fascinant.
Mais il y a des espèces, vous employez l'adjectif, charismatiques.
Oui, clairement le loup, Et encore, le loup, c'est ambigu parce que ça dépend qui on interroge. Mais l'ours blanc, le panda, par exemple, ça fait partie des espèces charismatiques, des espèces pour lesquelles on accepterait de faire des efforts pour protéger. Mais s'il y avait une espèce de moustique menacée d'extinction, ou je pense par exemple au frelon, qui est dans une situation assez mauvaise, le frelon que l'on connaît depuis toujours, qui n'est pas si dangereux que ça. Il injecte 7 fois moins de venin qu'une abeille, par exemple. Est-ce qu'on serait prêt à faire des efforts pour protéger ?
Mais l'ours, quand même, lui, dans le livre de la jungle, Balou, Akela. Et puis, ici, dans Booba, le petit ourson, donc la mère ours, ouvre l'hibernation et finit les portes de la caverne aux petits oursons.
Maman, qu'est-ce qui brille là-bas ?
Là-bas ? C'est l'eau du lac.
Oh, c'est joli. Maman, on peut aller voir ?
Oui, oui, nous irons, ne t'inquiète pas. Mais c'est votre premier jour de sortie. Et comme l'homme habite dans cette région, il faut être prudent.
L'homme ? Qu'est-ce que c'est ?
L'homme est le plus redoutable ennemi de l'ours. Il marche sur 2 pattes et il est horrible.
Horrible ? Pourquoi il est horrible ?
Je te l'expliquerai plus tard. Maintenant, il faut chercher de quoi manger.
L'ours noir d'Asie a pratiquement disparu du Vietnam et du Bangladesh. C'est la même chose pour l'ours malais.
Alors ça dépend de quelles espèces d'ours on considère, mais ça fait partie de ces grands prédateurs dont l'avenir est particulièrement incertain. Et ça touche d'ailleurs pas que les ours, mais l'ensemble des prédateurs. Les relations avec ou la place simplement de ces prédateurs dans la nature dominée par l'homme est loin d'être évidente.
Mais on pourrait faire des élevages d'ours.
On en fait.
Il y en a des milliers, dites-vous, en Asie.
Oui.
Et on en fait pourquoi ?
On les élève pour tirer la bile, qui a une forte réputation d'un point de vue pharmaceutique. Il faut imaginer que c'est des conditions absolument atroces où les ours sont enfermés dans des cages extrêmement petites, souvent avec un cathéter directement placé sur le flanc. Et de temps en temps, on fait une ponction de bile.
Mais c'est comme pour la résine des Landes, quoi.
Oui, sauf que là, l'animal souffre nettement plus que les arbres en question.
Ah, c'est vous qui le dites.
Et c'est vrai, enfin, c'est quelque chose qui est absolument abominable.
Dites-moi, Booba, ça vient d'une œuvre de Ernest Thompson Seton.
Oui. Qui a été un petit peu transformé, mais Seton, c'est un auteur américain qui est absolument remarquable à plusieurs titres. C'est un observateur de la nature remarquable, un dessinateur, un illustrateur extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui est, outre avoir fait la première valorisation du loup, vraiment la première œuvre dans laquelle le loup est vanté pour ses qualités d'intelligence, d'adaptation, il arrive à déjouer tous les traquenards humains, se trouve en fait, c'est lui qui l'a écrit. Et il va faire quelque chose aussi autre, il va fonder un mouvement, le Woodcraft, qui va inspirer le fondateur du scoutisme.
C'était faire venir dans des lieux sauvages, les enfants, pour les former à la manière, paraît-il, merveilleuse dont les Amérindiens vivaient en harmonie avec la nature.
Toutes les traces, en fait, de cette culture indienne largement fantasmée qu'on trouve dans le scoutisme aujourd'hui vient de cette âne.
Eh ben, nous entrons à pas de loup, si je puis dire, dans l'émission de demain qui sera consacrée à la protection de la nature et puis aussi à l'éducation de la jeunesse à la nature. Merci à vous, Valérie Chansigaud.
Merci.
Et je rappelle que vous publiez généralement, mais pas toujours, chez Delachaux et Niestlé. L'émission était préparée par Martin Cellier, la réalisation Liscombe, à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin.